écoutez IDFM en DAB+,
DAB+,
sur toute l'île de France.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Bienvenue sur Radio IDFM ou 98 ou 98.fr à l'économie en direct. Merci d'être au rendez-vous. Pour la loi, sont considérés comme déchets sauvages toute substance ou tout objet abandonné de manière inadéquate, volontairement ou par négligence, dans des zones accessibles au public ou sur des terrains privés avec ou sans le consentement du propriétaire. Aujourd'hui, mardi 15 novembre, nous avons choisi de parler de ce fléau et des solutions pour lutter contre, avec notamment un plan global de prévention et de lutte contre ces dépôts sauvages voté par le Conseil départemental du Val d'Oise. Plusieurs actions et expérimentations ont été ainsi mises en œuvre depuis quelques mois et c'est ce que nous allons découvrir ce matin en présence de mes invités. Sébastien Taveau, bonjour Sébastien. Merci pour votre présence dans nos studios. Sébastien Taveau, vous êtes PDG de la société Coulon et Taveau Constructeurs, une entreprise de menuiserie métallique à Presles, et vous êtes président de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise. Votre fédération qui est à l'origine de la signature d'une charte, une initiative inédite en France pour lutter précisément contre les déchets et dépôts sauvages sur le territoire du Val d'Oise. Vous nous expliquerez en quoi consiste cette charte, ses ambitions et objectifs. À vos côtés, Daniel Fargeau. Bonjour, monsieur le maire.
Chère Jacqueline, bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel Fargeau, vous êtes maire d'Andilly, rapporteur général de Plaine-Vallée, président de l'Union des maires du Val d'Oise, co-signataire en tant que président, co-signateur de cette charte inédite de lutte contre les dépôts sauvages. Avec vous, nous découvrirons comment, face à ce fléau, les élus cherchent des solutions politiques efficaces et ce que vous attendez de la signature de cette charte. Et parce que le sujet est également sensible, vous vous exprimerez également sur les perspectives des finances locales.
J'essaierai.
Vous essaierez. À vos côtés, Paul Dubray. Bonjour Paul.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté de participer à l'émission.
Toujours un plaisir.
Agriculteur céréalier, vous êtes adjoint à la mairie de Boissy-l'Aillerie, en charge de la voirie et des appels d'offres, conseiller départemental en charge de la ruralité et des relations avec le monde agricole et représentant de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, également co-signataire de cette charte. Avec vous, nous évoquerons l'implication de la FDSEA pour cette charte et cette expérimentation de détection de dépôts sauvages par image satellite lancée par Val d'Oise Numérique. Et à vos côtés, William Vinant. Bonjour William.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre présence et surtout de m'avoir aidé à construire cette émission. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise et je ne doute pas que vous ayez mis toutes vos compétences et votre énergie au service de cette fédération pour la mise sur pied de cette charte. C'est ce que vous nous raconterez dans quelques instants.
Pas de souci.
Bienvenue encore et merci à tous les quatre de participer en direct à cette émission. Une émission qui se retrouvera sur le podcast de la radio IDFM98.fr. Mais avant de vous donner la parole, nous avons maintenant rendez-vous par téléphone avec Michel Alexeyev, président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Val d'Oise, premier vice-président de la CMA Île-de-France. Un rendez-vous pour faire le point sur le skipper de la route du Rhum, Brieux Maisonneuve, dont nous sommes partenaires et qui n'a rien pu faire pour éviter à son bateau CMA Île-de-France de chavirer dimanche matin. Bonjour Michel.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous, bonjour Sébastien, bonjour William, bonjour Daniel et bonjour Paul. Oui, faire un point sur cette aventure qui vient d'arriver. Comme vous le savez, la nuit du samedi soir a été très délicate pour les marins en lice dans la catégorie des roms multi. Les roms multi, c'est des catamarans, hein, donc qui concouraient sur cette route du Rhum qui est partie de Saint-Malo la semaine dernière. Ils ont eu à subir des fronts et à traverser pour la plupart d'entre eux, et notamment pour Brieuc-Maisonneuve. En début de nuit, il a été appelé par la direction de course afin de porter secours à un classe 40 qui avait dématé, la boulangère, qui était à environ 400 000 nautiques du Cap Finistère. Vous voyez, allô ?
Oui, on vous entend, bon, Michel.
Il y a un retour. La peine. Donc, en milieu de nuit, il est reparti, reprenant sa route, et il a subi un nouveau front dans une mer qui était quand même très agitée et bien formée.
Très formée.
Mais il était quand même relativement fatigué. Il s'est donc glissé dans sa banette de veille pour se reposer. Et vers 6h30 du matin, TU, son pilote a décroché dans une rafale brutale et il a envoyé le bateau à l'abatter. Et le bateau est parti au chavirage. Il a rien pu faire. Le bateau s'est retourné et en pleine nuit, et son système de déclenchement de balises a fait son office. Alors imaginez-vous dans une boîte de 10 mètres carrés, enfin une surface de 10 mètres carrés, vous voyez, et vous êtes retourné comme une crêpe sans pouvoir rétablir et sans repère dans la nuit. C'est terrible.
C'est ça, le bateau qui part à la bâtée, c'est le bateau qui part en arrière, hein, carrément.
Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Et puis, bon, il y a des systèmes de sécurité qui n'ont pas fonctionné sur le bateau. Bon, lui, il était à moitié endormi, mais il n'a pas pu intervenir sur sa barre franche. Et le pilote n'a pas suivi parce que bon, c'était des fortes pressions et il a rien pu faire, donc le bateau s'est complètement retourné. Donc il s'est retrouvé à l'intérieur du bateau, il est resté lucide, il a pris la décision de se glisser dans la coque latérale pour se protéger. Il a attendu le lever du jour du bateau à l'envers afin de pouvoir avoir un premier contact VHF avec un cargo qui passait. La direction de course était au courant de son avarie et de son retournement, puisque la balise a fait son office correctement. Et dans un deuxième temps, Jean-Pierre Dick, sur un IMOCA qui était dans les parages, qui avait été dérouté sur zone par la direction de course, est venu le secourir. Ça n'a pas été facile, mais en réalité, il lui a lancé un bout de façon à pouvoir l'accrocher. Brieuc s'est mis à l'eau, il a nagé derrière le bateau et il est arrivé à se hisser sur le côté du bateau, mais l'arrière du bateau, parce que c'est quand même un bateau qui a un franc-bord qui est quand même important. Mais il a réussi à monter et il est sauf.
Sain et sauf, oui.
On est très rassuré et heureux que Brieuc aille globalement bien. Hormis un mal de dos, bon, ils se dirigent tous deux vers les Açores pour déposer d'autres marins qui devraient normalement arriver, d'après ce que j'ai regardé ce matin, a priori jeudi matin. Ils sont à environ 250 000 nautiques. Vous voyez, ça fait à peu près, on va dire, 450 kilomètres, quoi, à peu près. Mais bon, ça va, ils vont pouvoir faire ça en 24 heures.
Oui, ce que je voulais dire, Michel, c'est que pendant plusieurs heures, on savait pas ce qu'il en était.
Alors je vous explique, parce que en fait, moi personnellement, je suivais Brieuc quand j'étais réveillé très souvent, et notamment d'ailleurs dimanche matin où j'ai constaté que vers 7 heures.
Vous aviez pas de nouvelles.
Il émettait plus parce que on reçoit la position du bateau avec un système qui s'appelle le système AIS, qui est par la radio, qui nous donne la position du bateau et on peut vérifier la position du bateau. Je suis marin, donc j'ai des logiciels qui me permettent aussi de suivre les navires, donc je suis allé sur un autre logiciel et j'ai vu que le navire n'émettait plus en définitif. Là je me suis dit, oh là, il y a danger, il y a quelque chose qui va pas, parce que normalement on doit avoir la position du bateau, et pour cause, il était à l'envers. Et nous aurons des news que par son épouse en début d'après-midi. Imaginez-vous le stress et l'angoisse que nous avons suivi,
qu'on a vécu,
à chaque heure. Voyez. Bon, Il est debout. Vous avez d'ailleurs, je crois, reçu des vidéos à diffuser de façon pléthore sur Brieux,
sur son...
qui est avec Jean-Pierre Dick. On peut dire chapeau à Jean-Pierre. D'un bateau qui est de Nice, d'ailleurs, de la ville de Nice. Alors on dit c'est le sudiste qui a sauvé le nordiste. C'est trop génial cet engouement pour la solidarité.
Oui, c'est la solidarité des marins, oui.
Bien sûr, c'est important. Alors en ce qui concerne le bateau, le catamaran, il dérive actuellement vers le golfe de Gascogne, puisque on a des vents qui remontent sur le côté de en dessous le Cap Finistère. Mmh. Il est à l'envers. Il a encore son mât. Qui est attaché,
Il
flotte, le bateau flotte, le mât est attaché au bateau, les voiles doivent être encore un peu attachées, mais comme il avait trois ris dans la grande voile, c'est-à-dire qu'il avait réduit la hauteur de sa voile à environ, on va dire, le mât fait 30 mètres, environ 10 mètres pour pouvoir passer les fronts. Et on met tout en œuvre avec son épouse qui nous a chargé moi et Laurent Klein de coordonner toutes ces actions qu'on peut apporter pour arriver à sortir de ce bazar. Et une équipe normalement part de Brest sous peu en la personne de Bob Escoffier. D'ailleurs, Brieuc-Maisonneuve avait déjà porté secours à Escoffier, qui avait un ORC 50 qui s'était retourné.
Le même bateau, donc.
Bateau. Alors, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas démonté le mât. Donc, il est prévu, normalement, avec ce bateau qui part de Brest, de partir sur zone, de façon à ce que on embarque un plongeur, un électronicien, un pilote de drone pour repérer le bateau, et puis le préparateur, le mécanicien, en la personne de Francis Ferrari, qui va coordonner les opérations. Ça part de Brest. En même temps, ce bateau part de Brest pour aussi emporter du gasoil, du carburant, je veux dire, aux bateaux qui sont dématés et qui partent vers le Cap Finistère, mais ils n'auront jamais assez de gasoil pour rentrer. Donc en fait, on leur amène du gasoil. Voilà,
d'accord.
C'est tout ce que je sais. Bon, donc malheureusement, Brieux n'était pas assuré. Et d'ailleurs, tous les bateaux ne sont pas assurés, sauf aux tiers. Sont pas assurés pour ce genre de problème.
Oui.
Et Brieux a tout perdu.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, Michel Alexeyev, ce qu'il faut préciser à nos auditeurs et auditrices, c'est que Brieux, c'est son métier d'être marin et c'est son outil de travail, le bateau.
Brieux a rebondi suite à son entreprise qu'il a cédée. Il a rebondi avec d'ailleurs notamment 60 000 rebonds, entre parenthèses. Et il en a fait son métier avec son bateau addictif Céline, où il fait du charter, où il emmène des gens, il fait des traversées. Enfin bon, voilà, c'est son métier aujourd'hui. Mmh. Et c'est son gagne-pain, le bateau. Donc s'il le perd, il a tout perdu.
C'est ça.
Il a, par exemple, pour payer le bateau, 10 000 euros par mois de traite à payer pour payer son bateau qui a une valeur de 850 000 euros. Mmh. Bon, maintenant, il va y avoir des frais. Pas comment il va s'en sortir, mais en définitif, à ce jour, on a...
Il faut vraiment récupérer le bateau, c'est le plus important.
Alors, pour récupérer le bateau, il y a un coût qui vaut environ 60 000 euros, et c'est au bas prix, parce qu'on a réussi à négocier. Et on a lancé une cagnotte, pour justement aider Brieux à récupérer un peu d'argent, de façon à ce que ça lui permette de faire remonter le bateau jusqu'à Saint-Malo. Il faut y aller, il faut retourner le bateau, faut démonter le mât, faut remettre le mât sur le pont, faut retourner. Enfin, vous voyez, ça fait des opérations.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Ça demande quand même beaucoup de choses. Alors,
merci Michel Alexeyev.
J'ai juste deux secondes et je termine. Seul hic, c'est que la balise du bateau va cesser d'émettre à midi.
Oui.
On a donc fait appel au ministère de la mer via nos députés du Val d'Oise pour aller poser une balise sur le bateau pour le sécuriser et sécuriser aussi les autres navires qui naviguent sur zone en même temps, puisque tous les bateaux ne sont pas passés, et pour se permettre de retrouver le navire. Voilà.
On se tient au courant, Michel. La cagnotte, bien sûr, elle est mise en ligne sur le site de la radio. Et puis,
voilà. Je voulais juste dire aussi que en fait, la FEMA, elle est toujours derrière Brieuc, avec qui on a passé une convention pour 2023,
ouais.
Et pas uniquement pour mettre le nom de notre chambre sur des voiles. Brieuc a une mission vers nos CFA, et de rapporter ses expériences, de fédérer cette force qu'il a, d'être à la hauteur des événements, et pour nous c'est très important. Voilà.
Oui, mais donc d'ailleurs...
avec lui, et j'espère que tous ceux qui entendent mon message... arriveront à essayer d'aller sur le site Litchi pour pouvoir donner le 1 euro, ça nous suffit, mais il faut vraiment qu'on récupère de l'argent. Voilà.
Oui, merci. Mais c'est bien pour ça, Michel, que tous les jours on va essayer de vous donner la parole, enfin donner la parole à la CMA qui est très qui est en plein soutien pour Brieuc, et c'est formidable.
Complètement. Sachez que nous avons mis cette cagnotte en ligne à partir de dimanche soir, je m'en suis occupé. Mmh. On n'a pas eu les retours immédiatement, sauf que je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 16 500 euros.
Bravo.
16 500 euros en une journée et demie, donc ça va continuer. Mmh. J'en parle tout le temps, je tiens à cœur vraiment que on arrive à l'aider.
Mais nous aussi, on va en parler. Merci encore pour tout ce déploiement de mesures et votre soutien. À bientôt.
Merci,
Michel.
Merci pour lui. À bientôt.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct et nous reprenons le thème de notre émission consacrée ce matin à la lutte contre les dépôts sauvages. En compagnie de Sébastien Taveau, Daniel Fargeau, Paul Dubray, William Vinant. Sébastien Taveau, pour alimenter tout de suite le débat, je voudrais vous lire un article qui est apparu sur la ville de Marseille. Déchets dans les calanques, prison ferme requise pour 2 entrepreneurs. Ils nient les faits, pourtant les vidéos sont formelles. 2 entrepreneurs du BTP étaient jugés le 7 novembre par le tribunal judiciaire de Marseille pour avoir déversé des déchets de chantier au cœur du parc national des Calanques, en pleine zone Natura 2000. Le tribunal a requis 18 mois de prison, dont 12 mois avec sursis, et une amende de 15 000 euros. Le jugement sera rendu le 21 novembre prochain. Ces 2 entrepreneurs avaient été piégés par des appareils photos de surveillance placés sur le terrain du consistoire israélite de Marseille. Les faits remontent entre le 17 janvier et le 29 mars 2018. La justice a comptabilisé 16 rotations de 2 camions, un tas de 8 mètres de haut, 2000 mètres carrés de béton, blocs rocheux, laine de verre, plastique ou encore carrelage, donc sur une hauteur de 8 mètres. Les 2 prévenus ont avancé comme excuse un accord verbal avec le consistoire pour déposer du matériel de la terre végétale, accord nié par la défense de cette institution. Voilà. Je trouvais que on était en plein dedans avec votre combat vous-même contre ce fléau terrible.
Alors oui, effectivement, c'est notre combat quotidien. Alors si les faits sont jugés tels quels, je pense que c'est très bien. Mm-hmm. Il faut vraiment marquer le coup.
Je vous tiendrai au courant.
Il faut que tout ça s'arrête de toute façon. Donc je vais en revenir après sur la genèse de notre charte.
Mais oui.
Cet exemple est concret. Pour moi, il faut qu'il soit sanctionné lourdement. Lourdement.
Alors, avant juste de vous parler de la charte, parce que c'est je sais que c'est la fédération qui a eu cette idée de charte, vous me direz comment. Lorsqu'on lit un article comme ça, les entrepreneurs, lorsqu'ils font des travaux, ils font payer à la personne qui commande les travaux, ils font payer l'enlèvement des gravats et le dépôt dans les décharges.
Et tout à fait.
Donc c'est pour avoir plus de marge qu'ils font ça. C'est quoi le but?
Tous les entrepreneurs sont censés effectivement mettre tous leurs déchets en déchetterie pour que ce soit trié et valorisé. Malheureusement, tous les entrepreneurs ne sont pas aussi vertueux qu'on pourrait le penser. Et ça, c'est un vrai fléau dans notre secteur d'activité. Et effectivement, ils font payer une mise en décharge à leurs clients. Et pour essayer de récupérer un peu d'argent, quelques sous, préfèrent le mettre soit sur le bord de la route ou, par exemple, sur le PNR du Vexin, on le voit souvent, soit au bord des champs. Ils vont les déverser là et pour gagner un peu.
Ouais.
Et ça, c'est malheureux.
Oui, William Vinant, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, peut-être préciser aussi que dans le cadre des marchés qui sont passés avec des collectivités ou avec des maîtres d'ouvrage privés, il est systématiquement fait état effectivement du traitement des déchets, de la valorisation des déchets. Dans le cadre du particulier aussi, il doit être systématiquement fait mention du traitement, de l'enlèvement et de la valorisation des déchets dès lors où ça se fait soit dans l'entreprise, soit dans une décharge municipale. Malheureusement, le particulier, lorsqu'il a à démolir un mur, lorsqu'il a à démolir un appentis, lorsqu'il a à faire enlever des gravats chez lui, il peut être tenté de faire appel à des sociétés qui vont lui proposer un prix défiant toute concurrence. Et le particulier, ne connaissant pas forcément la loi, même si nul n'est censé l'ignorer, eh bien, va faire appel à cette société. Et il va faire confiance, comme un petit peu tous ces panneaux que vous voyez sur le long des boulevards de nos villes où il y a des gens qui proposent de récupérer des épaves et de donner un certificat de traitement de l'épave. Et puis comme par hasard, ces épaves, en fait, eh bien, elles n'arrivent jamais dans un centre de traitement. Et par contre, on va la retrouver dès lors où il y a un démantèlement de telle ou telle installation illicite. Parce que le traitement de l'épave est fait sur un site naturel ou est fait sur un site non approprié. Donc c'est aussi pour éviter de stigmatiser tout ça, parce que c'est vrai que c'est trop facile de le tirer sur l'ambulance et de dire c'est l'entrepreneur du bâtiment, alors qu'en fait, celles-ci ont tout prévu pour le faire. Et juste donner un exemple, et ça, ce sera, je pense qu'on échangera sans doute avec Daniel, puisqu'il a un pouvoir de police sur sa commune aussi quand même.
C'est ce que nous verrons tout à l'heure.
Voilà, je vais vous donner un exemple très concret qui est arrivé la semaine dernière. On est une entreprise de bâtiment qui travaille à Paris, qui travaille sur un chantier avec une palissade de chantier. Il a reçu un avis en fait de un tiers détenteur pour dépôt de gravats devant le chantier, parce que la mairie de Paris a considéré que c'était les gravats du chantier. En fait, pas du tout. Pendant le week-end, il y a quelqu'un qui est venu déposer des gravats devant, et en fait, les agents de la ville de Paris ont pas cherché à comprendre. Alors, pas la ville de Paris ou la société qui est dédiée à ça. Ils ont bien évité de tirer les tenteurs à la société qui fait les travaux, alors que les bennes sont sur chantier. Donc on est en train de se battre là pour éviter ce tir des tenteurs de 450 euros.
Ce genre de problème.
C'est purement inadmissible. En fait, il est victime de quelqu'un qui a cassé sans doute des murs dans un immeuble à côté, qui a été médecin, dira le gars se démerdera avec les chantiers du tiers. C'est malheureusement trop souvent ça.
Et
ça,
On comprend que ces dépôts sauvages ont pour origine l'incivilité, mais c'est presque même de l'escroquerie
C'est de l'escroquerie, c'est le mot juste.
Alors, Sébastien Tavaud, comment est née l'idée de cette charte ?
Alors, la genèse de la charte est très simple. Nous, dans le bâtiment, dans notre secteur d'activité, on a toujours été proche de l'environnement, puisqu'on est toujours soucieux de ça. Et du coup, force est de constater que dans notre département, malheureusement, on trouve trop souvent des tas de déchets. Alors, je vais pas parler de gravats, je vais parler de déchets, puisque c'est un terme beaucoup plus large et qui mêle un peu vraiment tout.
Oui.
Le bâtiment, c'est très sectorisé, mais les déchets sont plus généralisés. Donc, on trouvait des tas de déchets un peu partout, au bord des champs, au bord des routes, dans les forêts. Et ça, c'est quelque chose qui nous insupportait, puisque l'amalgame était fait avec notre secteur d'activité. On parlait de déchets bâtiments, alors qu'en fait, il y avait des déchets de toute nature qui n'avaient rien à voir avec le bâtiment. Donc on s'est dit, avec les membres du bureau de la fédération, pourquoi pas qu'on fasse une action conjointe avec tous les acteurs du département. Faire une charte. Donc c'est sorti en tant que charte. On s'est dit, on va faire une charte, on va convier tout le monde. Donc on a fait appel à la préfecture, on a fait appel au conseil départemental, on a fait appel à la région Île-de-France également, on a fait appel à l'Union des maires du Val-d'Oise, donc Daniel. On a fait appel au parc naturel régional du Vexin, qui malheureusement est très impacté par ce phénomène, mais également la FDSEA, puisque eux aussi sont victimes de ça. Donc on a élaboré une charte, on l'a proposée donc à tous ces acteurs. Donc chacun a mis un peu sa patte dans la charte, qui nous a permis de la faire évoluer pour aboutir à la version finale, donc que nous avons tous signée au mois de septembre.
Oui, donc, c'est le 14 septembre. Vous avez signé d'ailleurs en présence d'Émilie Chandler, député nouvellement élu. Donc il y avait vous, Sébastien Tavaud, Philippe Cour, le préfet du Val-d'Oise, Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, Daniel Fargeau, qui est avec nous ce matin, président de l'Union des maires du Val d'Oise, Benjamin Demailly, président du parc naturel régional du Vexin français du Val d'Oise, et Patrick Dezaubry, président de la FDSEA du Val d'Oise. Donc c'est un moment fort ce 14 septembre.
Oui, c'est un moment, on peut dire exceptionnel, hein, puisqu'on a réussi à réunir tout le monde au même moment.
Oui.
Que tout le monde adhère à cette envie de faire mieux et qu'on puisse arrêter donc ces dépôts sauvages et sanctionner les contrevenants.
Alors cette charte, donc elle a été signée. C'est une charte, c'est une valeur morale plus qu'une valeur juridique. Hein, on est bien d'accord.
Effectivement, c'est une vraie valeur morale, mais ce qui prouve l'implication de tous les signataires.
De chacun.
Voilà, c'est vraiment pour que on soit tous autour de la table et qu'on puisse mener des actions communes. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas chacun dans son coin, on n'arrivera pas à faire quelque chose.
Oui, il faut vraiment.
Il faut vraiment qu'on soit tous unis, tous groupés, pour que vraiment on puisse vraiment arrêter ce phénomène et faire en sorte qu'on ait des campagnes ou même des villes ou des forêts propres.
Oui, oui. Alors, William Vinant veut ajouter quelque chose. Je voulais juste vous dire, vous posez la question. Donc, cette charte, est-ce que tous les adhérents, par exemple, de la Fédération française du bâtiment et puis des autres signataires, co-signataires, vont s'engager avec cette charte? Comment elle va être, elle va évoluer?
Alors,
ce que je veux dire, c'est que vos adhérents, vous-même, tous les adhérents qui font partie de la Fédération française du bâtiment, est-ce que vous allez leur présenter cette charte pour les engager moralement à respecter
Bien évidemment, oui. Bien évidemment, on va leur présenter. Alors, on va peut-être pas les forcer à signer la charte, mais au moins qu'ils soient conscients que la fédération est très engagée sur le sujet. Et comme j'ai pu le dire le 14 septembre. Si un contrevenant est pris la main dans le sac, et ben nous serons là, la fédération sera là pour porter plainte et se porter partie civile.
Oui.
Et ça, que ce soit un adhérent de chez nous ou pas un adhérent, peu importe, nous porterons partie civile.
Complètement, oui. William Vinant, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais juste rajouter un petit point sur la genèse de la charte aussi.
Oui.
La genèse, elle est venue aussi d'un constat. À un moment, en échangeant avec le bureau, on s'est dit, mais c'est quand même pas possible, c'est des peaux sauvages, ça fleurit comme des champignons en automne. Et en fait, donc je me suis dit, tiens, on va regarder sur le bon coin. Donc on est allé sur le bon coin.
Oui.
Et sur le bon coin, j'ai fait enlèvement de gravats autour de Cergy sur 10 km. Et là, j'ai vu 150 adresses. Voilà. Alors, je me suis dit, soit je connais très mal mon territoire.
Vous saviez plus où donner de la tête.
Soit il y a un souci quelque part. Et là, en fait, en regardant, j'ai essayé d'appeler le numéro. Alors, le numéro ne répondait pas forcément, ils ne répondent pas. Il faut laisser des messages. Et il y avait 20 fois le même numéro. Bon, je tiens, c'est étonnant. Donc, j'ai fait un tableau Excel. Suite à ce tableau Excel, ensuite j'ai regardé le numéro de SIRET des sociétés, parce qu'il y a le numéro de SIRET. Donc pour le particulier, finalement, ou pour la petite société, c'est très rassurant.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure,
il y a un numéro de SIRET, tout va bien, on peut y aller. En fait, alors le numéro de SIRET, j'ai vu de tout et n'importe quoi. J'ai vu par exemple le numéro de SIRET de Quicksilver Europe à Biarritz. Voilà. Mais ça, personne ne va aller le voir en fait. Donc là, on s'est dit, oh là, il y a un loup. Donc qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là? J'ai transmis ça à la préfecture du Val-d'Oise, en l'occurrence à Michel, à Maurice Barat. Le secrétaire de la préfecture qui m'a dit, ah oui, là, on a quelque chose, faut regarder ça et tout. Et de là est venue la genèse. Donc, en fait, on a avancé, et c'était juste avant Covid. Donc, il y a eu le temps Covid qui a fait son œuvre.
Vous aviez déjà mis ça en place.
C'était juste avant Covid, mais les deux ans du Covid n'ont pas facilité la mise en œuvre définitive. Et surtout, ensuite, ce qu'on a voulu dans la charte, comme l'a dit Sébastien, ce que le bureau a vraiment souhaité, c'est que chacun, dans son rôle, puisse intervenir et apporter quelque chose. Pour faire très simple, typiquement, que la préfecture, ben, elle est le moyen de contrôle. En fait, c'est eux qui peuvent déclencher les moyens de contrôle. Le conseil départemental, c'est l'apport aux communes sur de la vidéosurveillance, c'est le conseil régional avec des outils comme Val-d'Oise numérique. L'union des maires, c'est sensibiliser les maires à ce qu'ils doivent faire dans les marchés publics. Mmh. Et donc, par exemple, le chantier responsable, les démarches responsables de la fédération du bâtiment.
Oui.
L'union des maires aussi, c'est l'information aux citoyens. Alors, citoyens, parce qu'en fait,
Et non, pardon. Non, mais là, en fait, l'idée, c'est ça, mais ils vont tous le dévoiler, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette force collective.
Oui, oui,
il a tout, force collective. Il a tout dit.
Non, non, pardon. Mais c'est vrai qu'on.
Non,
c'est
mais
tellement un engagement
que,
fort.
On sent que William
est. Mais voilà, on sait. Et on remerciera jamais tout le monde d'avoir suivi la démarche, parce que c'est vraiment très positif pour le territoire. Et le PNR, par exemple, parce que c'est aussi un constat, c'est peut-être pouvoir, par moment, en fonction des endroits, en fonction des périodes, parce qu'au moment des tailles de haies, par exemple, finalement, il y a beaucoup de déchets verts qui sont dans les forêts ou partout. Pourquoi ne pas imaginer des zones de proximité plus développées à certains moments pour un apport volontaire de végétaux sur les zones du PNR, qui ensuite seraient emmenées sur des zones de broyage ou autre chose, plutôt qu'on les retrouve dans les forêts. Ça coûte moins cher, finalement. Bon, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de faire ça. Il en deviendra d'autres, sans aucun doute, au niveau de la signature de la charte, parce que la charte, elle doit vivre avec un comité de suivi. Peut-être, par exemple, le tribunal aussi, parce que le tribunal, il faut qu'il aille vite,
je crois,
le jugement,
oui.
pour taper du poing
sur
la table.
Surtout qu'il y a des lois aujourd'hui.
Voilà. Donc, ça évoluera sans doute encore.
Il y a le code de l'environnement, il y a le code de... Oui.
Donc,
voilà
un peu la genèse aussi. C'est pour ça que je voulais compléter ce sujet, cet effort collectif de tous qui était génial.
Oui, voilà. c'est le collectif est important. Alors, ce que je voulais donner quelques chiffres, puisque une récente étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement montre que ces déchets représentent 21 kilos par habitant et par an, soit 60 000 par an de traitement, que dans le Val-d'Oise 200 points de dépôt illégaux ont été identifiés. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France évalue leur coût annuel à près de 14 millions d'euros. Donc c'est une somme incroyable. On pourrait faire plein d'autres choses avec ces 14 millions. Et à titre d'exemple, 1,3 million d'euros est dépensé chaque année pour nettoyer les bords des routes départementales.
Ça, c'est des finances directement du conseil départemental. Bon, je laisserai Paul en parler après, je ne vais pas te le dire. Mais c'est vrai qu'on pourrait largement en faire autre chose.
C'est ça. Et comme l'a dit très justement William, les coupables ne sont pas que des entrepreneurs du bâtiment.
Alors, c'est surtout le message qu'il faut faire passer.
C'est ça.
Ce ne sont pas que des entrepreneurs du bâtiment.
Ouais.
Et c'est ça le plus important. Malheureusement, il y a beaucoup aussi de particuliers
qui font
des travaux chez eux, qui vont louer un camion chez un loueur, on ne citera pas de marque, et puis qui ne savent pas quoi en faire, parce que quand ils vont en déchetterie, il faut payer. Donc du coup, ils se disent, je vais aller soit en forêt, soit au bord de la route, je vais mettre ça sans me faire voir, et hop, je m'en vais comme ça, ni vu ni
connu. Donc l'ouverture de déchetterie est un sujet aussi.
Je croyais que pour un particulier, c'était gratuit la déchetterie.
C'est gratuit, mais tous les déchets ne sont pas repris.
C'est ça. Très bien.
Il y a une sélection dans le tri. Bien évidemment, on ne peut pas déposer n'importe quel déchet dans une déchetterie.
Merci Daniel Fargeau pour cette précision. Alors toujours dans les chiffres que j'ai notés, moi donc les coupables ont été recensés, c'est-à-dire il y a un quart seraient des professionnels, artisans, commerçants, et le reste évidemment des particuliers. Donc on voit bien que les chefs d'entreprise ne sont pas les plus pollueurs.
Exactement, et c'est le message qu'il faut faire passer.
Quelques mots peut-être Sébastien et puis William sur la filière à responsabilité élargie des producteurs.
Oui, la fameuse REP.
Oui.
REP qui normalement entre en vigueur au 1er janvier. Donc la REP, la responsabilité élargie du producteur, pour le particulier lambda, on peut l'assimiler à l'écotaxe. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va aller, un particulier va acheter un électroménager.
Oui, il y a un euro de.
Voilà, il y a toujours ce qu'on appelle une participation, donc l'écotaxe. Ben là, ce sera un peu la même chose. C'est-à-dire que chaque entrepreneur qui achète du matériel et qui le met en œuvre devra appliquer une taxe supplémentaire sur tous ses devis et forcément l'impacter au particulier.
Oui.
Au client final, en tout cas.
Et financer peut-être.
Alors cette taxe va permettre donc de trier les déchets, de les récupérer et surtout de les valoriser.
Le principe, c'est de financer en fait des filières de valorisation, même si elles existent déjà, mais c'est de continuer à les financer. Bon. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le sujet parce que un certain nombre d'éléments restent encore en suspens, notamment tout ce qui est de la partie en fait montant de cette taxe selon les produits, la définition effectivement du déchet, puisque typiquement, par exemple pour des plaques de plâtre, se pose la question des plaques de plâtre qui ont été peintes, alors que le plâtre se recycle à l'infini. Et qu'est-ce que l'on fait justement du revêtement peint, puisque là, lui, il ne veut pas être recyclé. Donc, est-ce que c'est véritablement un déchet propre qu'on amène? Et dans ce cas-là, l'entrepreneur qui apportera ça, étant donné qu'il a payé une fois, il ne paiera pas une deuxième fois.
Oui, je comprends.
Bon, ça donc, ça pose question. Il y a encore des choses à caler. Il y a des discussions en ce moment avec le gouvernement. Et c'est dans cet esprit aussi que notre fédération, la fédération au niveau national, a demandé justement un temps. On comprend qu'il faille, qu'il soit nécessaire qu'elle se mette en place au 1er janvier, qu'il y ait une date de départ. Mais il y a beaucoup de discussions qui restent encore en suspens. Et dans cet esprit, la FFB a demandé au gouvernement et au pouvoir public de se laisser un temps de construction. Puisque les organismes qui sont aujourd'hui agréés ont été agréés récemment. Donc, les organismes agréés là, récemment, il reste plus que 2 mois pour la mise en œuvre.
C'est trop court.
Et objectivement, la priorité en ce moment aussi des entreprises et du secteur économique, même si on ne nie pas l'intérêt de la REP, est peut-être de se concentrer sur l'activité et sur d'autres échéances peut-être plus importantes comme l'énergie, clairement, les problématiques énergétiques et d'autres. Et dans cet esprit, on a demandé un délai de mise en œuvre de 6 mois pour que tous les acteurs puissent vraiment trouver une issue favorable à cette idée vertueuse, hein, parce qu'elle est vertueuse, faut bien le rappeler. Voilà.
Merci William Aidan. Sébastien Taveau, quel message souhaiteriez-vous faire passer là aujourd'hui?
Alors, sur la REP ou la
sur les dépôts sauvages, alors, oui, sur
dépôts sauvages. Alors plusieurs messages. Un pour les professionnels du bâtiment, le premier. Ne faites pas n'importe quoi. Sachez que tout le monde maintenant est au courant du sujet et que tout le monde sera intraitable. Donc, gare aux contrevenants, sachez que la peine sera lourde. Donc, allez en déchetterie, faites reprendre vos déchets par les organismes.
Prendre le temps d'aller en déchetterie.
Qui vont bien. Voilà. Deuxième message, c'est tous les particuliers, les clients. Faites attention avec qui vous soumissionnez. Parce que ça, c'est très important. Si vous soumissionnez un entrepreneur ou soi-disant entrepreneur à des prix vraiment
qui sont trop bas,
qui sont vraiment trop bas, dites-vous qu'il y a un problème et sachez que vous êtes responsable de vos déchets. Donc ça, c'est très important. Alors, faut pas l'oublier. C'est pas parce que vous avez payé une facture à quelqu'un qui vous reprend vos déchets que vous êtes libéré de la responsabilité.
D'accord. Ah oui, c'est important.
Ça, c'est très important. Oui. C'est-à-dire que jusqu'au bout,
si
vous
par exemple je retrouve mes déchets sur une borde de route, un bord de route, c'est moi qui suis responsable.
C'est vous qu'on va venir chercher, puisque on ne sait pas qui l'a déposé. Mm-hmm. Par contre, si on voit votre nom, Jacqueline, inscrit sur un papier, là, c'est la police qui va venir chez vous, frapper à votre porte. Donc ça, c'est très important. Maître d'ouvrage public. C'est exactement la même chose. Les offres anormalement basses, on n'arrête pas d'en parler, mais sur ce sujet-là, c'est la même chose. Quand vous voyez que les prix sont trop bas, sachez qu'il y a des économies qui sont faites quelque part, et en général, traitement des déchets, ça passe aussi à la trappe.
Oui.
Donc ça, c'est maître d'ouvrage public, faites attention. Conseil départemental là-dessus, par contre, je pense qu'il faut le dire, c'est important. Ils sont très au fait du problème, et ils suivent parfaitement leur appel d'offres, et notamment avec les chantiers responsables, ils sont parfaitement inscrits dans cette démarche. Donc ça, il faut le souligner.
Oui, on peut les féliciter.
Oui, on peut les féliciter.
Voilà. Merci Sébastien Taveau. Merci pour bravo pour cette initiative de la charte.
Merci.
Et puis, peut-être que vous espérez qu'elle soit suivie dans d'autres territoires.
C'est le but. C'est la première qui a été faite en France.
Oui, oui.
Donc c'est vraiment, pour nous, c'est une fierté hein, que notre département ait réussi à réunir tous les acteurs. Donc maintenant, il faut effectivement que ça se développe partout. Donc ça, c'est très important et on sera disponible auprès de tous les organismes qui souhaitent mettre en œuvre une charte similaire et on sera là pour les aider à la monter.
Merci, le message est bien passé et surtout on retiendra que ce ne sont pas que les artisans du BTP qui sont des pollueurs.
Exactement.
Voilà, on le dit, on le redit. On marque une courte pause et puis on retrouve mes autres invités. À tout de suite.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
at the stream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream? With you walking towards me from the river. And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water. The sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Un morceau de Sting avant de continuer notre émission. C'est l'économie en direct sur Radio IDFM 98 ou 98.fr. Et ce matin, nous avons choisi de parler de solutions pour lutter efficacement contre la problématique des dépôts sauvages d'ordures. Avec à mes côtés Sébastien Tavaud, président de la Fédération française du Val d'Oise, du bâtiment du Val d'Oise, pardon, initiateur et co-signataire d'une charte portée par cette fédération pour lutter contre ces dépôts sauvages. Daniel Fargeau, maire d'Andilly, rapporteur général de Plaine-Vallée, président de l'Union des maires du Val d'Oise, co-signataire également de cette charte inédite. Paul Dubray, agriculteur céréalier, adjoint à la mairie de Boissy-l'Aillerie en charge de la voirie et des appels d'offres, conseiller départemental en charge de la ruralité et des relations avec le monde agricole et représentant de la FDSEA, co-signataire de cette charte, et William Vinant, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, homme de terrain qui a œuvré pour mener à son terme la signature de cette charte. Daniel Fargeau, je m'adresse à vous puisque beaucoup d'élus se disent démunis face à ce fléau des dépôts sauvages.
Oui, Jacqueline, effectivement, et je rappellerai qu'en propos liminaire, que les dépôts sauvages sont un problème récurrent aussi dans le Val d'Oise, et que c'est ensemble que nous pourrons les éradiquer en étant force de proposition. Alors, dans le Val d'Oise, bien sûr, mais je voudrais également rappeler que dans le Var, un maire, Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, au péril de sa vie, en voulant faire respecter les règles du bien vivre ensemble, a succombé à ses blessures, se faisant écraser par un camion d'un maçon. Je ne sais pas s'il était déclaré à la FFB, hein, bien évidemment, messieurs, mais je ne le pense pas. Un maçon qui a reculé et qui, évidemment, a tué le maire de Signes. Et ça, c'était en août 2019. Donc, à quelques jours du congrès des maires, porte de Versailles, à savoir la semaine prochaine, je souhaiterais vraiment, vraiment, et nous sommes plusieurs, évidemment, et même unanimes, à ce que les pouvoirs de sanction des maires soient renforcés pour lutter efficacement contre les délits auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, et non pas simplement sur les dépôts sauvages, mais les dépôts sauvages en sont effectivement un exemple tout à fait cohérent et que nous subissons au quotidien. Je voulais vous dire, Jacqueline, que je me suis réjoui. Je me suis réjoui de la proposition qui avait été émise.
Oui, vous l'avez accueillie avec...
Par la Fédération française du bâtiment. Oui. Du Val d'Oise et par son président à mes côtés, Sébastien, lorsque celle-ci a souhaité mettre en œuvre une charte départementale d'engagement. C'est ça qui est important. C'est le terme engagement au titre de la lutte contre les dépôts illégaux de déchets. Alors, ravi également que les différents partenaires institutionnels et les fédérations auxquelles, qui ont co-signé cette charte soient solidaires pour additionner ni plus ni moins que leurs compétences afin d'endiguer ces incivilités, voire ces infractions, parce que ce sont avant tout des infractions au code de l'environnement. Il faut quand même ne pas l'oublier. Et qui nuisent au bien vivre ensemble. Alors voilà effectivement le fait de vouloir signer cette charte a été quand même pour l'Union des maires du Val d'Oise, en étant co-signataire, une action forte pour nous, pour l'ensemble des élus que nous représentons au sein de ce beau département du Val d'Oise. Une action et une mission qui sera menée également de communiquer, d'informer auprès des maires, des présidents de PCI également, et des élus vers leurs administrés afin de relayer via leur support de communication différentes informations nécessaires à ce que chacun puisse avoir à l'esprit quelles sont les missions à dégager pour effectivement tenter d'éradiquer ces dépôts sauvages. Je crois que c'est une action commune et une action conjointe et solidaire que nous menons les uns avec les autres, mais aussi avec nos administrés, nos concitoyens, puisque chacun subit ces dépôts sauvages illégaux. Alors, notre rôle sera aussi, bien évidemment, d'inciter les élus à s'inscrire dans la démarche chantier responsable, comme ça a été présenté tout à l'heure par William, sur tous les chantiers, et inciter également au traitement, à l'élimination, mais surtout à la valorisation de l'engagement du traitement des déchets par les entreprises, quelles qu'elles soient. En d'autres termes, cette charte débouche quelque part, peut-être aussi, et je le souhaite, à partir de 2023, sur une école des bonnes pratiques.
Ouais.
Ces bonnes pratiques doivent être inculquées à chacun d'entre nous, quel que soit son rôle dans la vie sociétale, dans la vie publique ou non, d'ailleurs, auquel nous participons, afin que effectivement nous soyons respectueux les uns et les autres, et encore plus vertueux de notre environnement qui est si cher à nos concitoyens. Aujourd'hui, après avoir connu cette période sanitaire, nous en sommes tous encore un peu plus conscients.
Une période sanitaire qui, justement, a peut-être vu beaucoup de personnes se mettre au bricolage et profiter de ces périodes pour déposer des dépôts, faire des dépôts sauvages.
Alors, effectivement, tout à l'heure a été... vous avez parlé de la REP, cette forme d'éco-taxe, et je pense que c'est la solution pour essayer d'encourager les filières d'éco-organismes à mieux recevoir l'ensemble de ces déchets et à faciliter en sorte la création de ces déchetteries parce qu'elles doivent trouver aussi des financements. Vous savez que sur le Val d'Oise, nous en manquons effectivement, il nous en faudrait 3, 4, 5 supplémentaires pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de chacun. Mais pour autant, il va falloir les financer. Alors les financer de quelle façon? Alors à la fois par la volonté de la région Île-de-France, du conseil départemental, mais je laisserai la parole à Paul qui nous présentera sa version, bien sûr, et via aussi la perception de cette écotaxe pour nous permettre effectivement de répondre au fait de pouvoir aller déposer en déchetterie sans pour autant que ce soit payant pour les particuliers, comme je vous l'ai dit, mais certains matériaux ne sont pas recevables en déchetterie pour les raisons qui ont été évoquées par William tout à l'heure notamment. Mais il faut vraiment que nous puissions avancer sur ce point et de cette façon.
Daniel Fargeau, la question que je voulais vous poser, c'est que vous, en tant que maire, des pouvoirs vous sont dévolus en matière de police administrative pour faire supporter des frais aux auteurs de ces incivilités.
Oui, effectivement, nous sommes détenteurs de pouvoirs de police en étant OPJ, officier de police judiciaire, sur nos territoires communaux. Bien évidemment, ces pouvoirs existent. Les mettre en œuvre, c'est un autre problème,
compliqué.
Je dirais, puisque pourquoi nous sommes aussi contraints. Alors, vous parlez financièrement, bien sûr, mais aller chercher, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, 4 ans pour amener
pour
devant les tribunaux et condamner les personnes qui ont évidemment déposé ces déchets, effectivement, afin qu'elles soient condamnées et que des sanctions soient émises à l'encontre de ces personnes. Alors nous, en tant que maire, nous avons aussi cette capacité, cette possibilité. Néanmoins, nous sommes aussi tributaires des tribunaux et aujourd'hui des facilités sont faites pour obtenir des audiences en référé pour aller plus vite en la matière. Encore faudrait-il que punir ces personnes, c'est bien beau, mais il faudrait encore qu'elles soient solvables.
Ouais.
Et le fin mot de l'histoire est bien celui-ci. Alors on peut les condamner aussi à des peines, mais vous savez que les peines encourues seront malgré tout très faibles. Il faut savoir que pour l'assassinat, parce que je vais parler d'assassinat du maire de Signes, la personne n'a pris qu'un enferme.
Ouais, ce qui est assez scandaleux.
Voyez, la vie d'un homme, la vie d'un élu local ne représente pas grand-chose, à mon avis. Hein, et ce ne sont que mes dires aux yeux de la justice de notre pays. Ensuite, au niveau des sanctions pécuniaires, bien évidemment, il faudrait aller chercher ces sommes vers ces personnes qui ne sont absolument pas solvables dans la majorité des cas. Et je voudrais faire référence aussi au coût que cela engendre pour les collectivités de remettre en état, notamment par des populations, je ferai simplement référence aux populations roms que nous avons sur le territoire du Val-d'Oise et que nous essayons de faire éliminer d'un endroit, mais on se refile la patate chaude,
c'est ça,
comme on dit.
Oui.
Il faut savoir que sur un secteur du territoire de la CAPV, de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, sur Grolet notamment, des populations roms ont envahi un terrain, une grande surface d'année en année. Alors on les fait, la préfecture nous aide à les évincer, à les faire partir. Bien évidemment, quelques temps plus tard, ils reviennent parce que ces terrains appartiennent à des propriétaires fonciers privés et il est bien difficile de pouvoir aller chercher ces propriétaires fonciers pour les faire payer la dépollution de ces terrains. Donc, comme ces terrains ont été repris au niveau du développement économique de la CAPV, nous avons une lourde addition de l'ordre de 3,5 millions pour nettoyer ce terrain, cette parcelle, qui est quand même étendue, bien évidemment, mais néanmoins, vous voyez quand même, et au-delà de ça, là, c'est vraiment de la pollution environnementale, ce ne sont pas forcément des chefs d'entreprise
on a bien compris,
du
oui.
BTP,
oui.
Ce sont malgré tout des personnes qui font des petits travaux au noir, qui font tout un tas de choses, et qui vont effectivement dire, écoutez, vos déchets, nous, on va aller les chercher chez vous, et on va les amener en déchetterie. Oui, enfin, la déchetterie, c'est une parcelle de terrain qui est reprise, qui est en charge par une agglomération, une institution, donc, et bien sûr, c'est aux citoyens, à l'ensemble des citoyens, de s'acquitter de ces coûts, puisque je rappellerai quand même que l'État, c'est chacun de nous.
Bien sûr.
Et nous contribuons chacun au niveau de nos contributions, quelles que soient ces contributions, taxes, impôts et différentes façons de payer un certain nombre de choses vers l'État, mais nous sommes tous contributeurs et il faut le savoir aussi.
Merci Daniel Fargeau. Encore une question parce que vous avez évoqué les référés. Le co-signataire, le préfet du Val-d'Oise est co-signataire de cette charte. Son rôle dans ces situations pour intervenir, est-ce qu'il a un rôle?
Alors le rôle du préfet est un rôle de facilitateur,
oui.
Et d'accompagner au mieux les élus que nous représentons au sein de notre territoire valdoisien. Et je suis ravi et je tiens vraiment à le souligner, puisque nous travaillons vraiment main dans la main avec les services de l'État et notamment le corps préfectoral du Val-d'Oise, avec lequel nous échangeons de façon régulière pour avancer sur un certain nombre de sujets. Et Monsieur Philippe Cour, préfet du Val d'Oise, en charge de nombre de compétences, est vraiment très attaché à l'environnement et au fait de pouvoir s'associer à cette charte. D'ailleurs, il était co-signataire.
C'est ça, oui.
Et clairement, il est mis en place des. Il y a même une application aujourd'hui qui existe pour chacun peut y aller. Alors je vais vous dire le nom. Hein, je l'ai plus en tête. C'est Ma Préfecture, ça s'appelle cette application, et qui permet de recenser des lieux de dépose de déchets sur l'ensemble du territoire.
D'accord.
Et je pense que ça c'est important parce que chaque citoyen peut se prendre en main aussi, oui, et puis aller dénoncer, puisque c'est pas simplement de la délation.
Non,
c'est
non. Vraiment dans le cas présent, c'est pas que de la délation.
Donc
ouais.
Oui, le corps préfectoral et la préfecture du Val d'Oise est vraiment un acteur majeur auprès des élus notamment.
Oui, ça a dû être important pour vous, hein, Sébastien Tavaux, que la préfecture, enfin que Philippe Cour soit co-signataire.
C'était primordial.
Ouais, ouais.
Si les services de l'État n'étaient pas signataires de la charte,
oui,
bon,
c'était...
ça n'avait pas du tout le même impact, puisque c'est quand même l'État qui fait, entre guillemets, régner l'ordre.
Donc, absolument.
C'était important qu'il soit
c'est
là.
C'est important, oui. Daniel Fargeau, alors vous vouliez nous dire quelques mots sur les finances locales qui sont aujourd'hui, je crois, une vraie préoccupation pour les communes.
Oui, alors quelques mots, ça va être difficile, Jacqueline, parce que je suis inépuisable sur ce sujet. Sachez que, effectivement...
Je voudrais donner la parole à Paul.
Oui, bien sûr, je plaisante. Il est 10h24, c'est bon. J'en ai pour une demi-heure, il te restera 5 minutes. Non, bien évidemment, pourquoi les finances locales? Vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée... Enfin, il a été présenté devant l'Assemblée un projet de loi de finances. Un projet de loi de finances qui concernait notamment les finances locales des collectivités. Et nous étions quelque peu vent debout, nous, les associations d'élus, contre ce projet de loi de finances. Et nous avons travaillé au sein de l'AMIF, de l'AMF, et j'ai participé à un groupe de travail pour proposer des amendements à nos députés, à nos parlementaires, donc députés et sénateurs, sur ce projet de loi de finances. Alors, bien sûr, ces amendements ont été... proposés. Certains, je pense, ont été relayés par nos parlementaires, ça j'en suis même convaincu. Néanmoins, vous savez que le projet de loi de finances, enfin la loi de finances a été passée selon le fameux 49.3, donc le débat a été écourté en la matière. Et pourquoi les finances locales sont un point important aujourd'hui pour nous, les élus? Ben, tout simplement parce que les communes et les intercommunalités se retrouvent mises en grande difficulté par rapport au contexte financier actuel, lié notamment à l'augmentation des prix d'énergie.
Oui, oui.
Je parle du gaz et de l'électricité, sachant que ces charges supplémentaires, ces surcharges de fonctionnement vont obérer les comptes administratifs, les comptes de résultats des collectivités, pardonnez-moi, et il va être très difficile pour les collectivités de construire leur budget 2023. Pourquoi ? Parce que contrairement aux particuliers, qui vont quand même subir une hausse maximale de 15% du tarif réglementer l'énergie selon un bouclier énergétique décidé par le gouvernement, les collectivités ne rentrent pas en ligne de compte vers un bouclier tarifaire énergétique, et c'est bien là le problème, parce que nos syndicats compétents en la matière, notamment le CIGEF, qui était le syndicat du gaz et électricité d'Île-de-France, nous a assuré, entre guillemets, et ça nous a pas rassuré, croyez-moi, que le prix de l'énergie allait, notamment du gaz, allait augmenter de 4 fois à 7 fois le prix que chaque collectivité
paye aujourd'hui, oui.
Voilà, payait, et donc grosso modo, on tend vers un coefficient multiplicateur de 5.3, ce qui signifie, et ça faut que vos auditeurs en aient totalement conscience, c'est que là où les collectivités pour chauffer leurs équipements, leurs établissements, que ce soit la mairie, que ce soit les écoles, que ce soit les complexes sportifs, culturels et autres, les crèches, eh bien écoutez, là où on avait grosso modo 1 million de gaz, par exemple, à payer les années précédentes, eh bien il faudra sortir 5.3 millions. Donc le différentiel, cette variation, on ne sait pas où aller la chercher et comment honorer ces factures qui tomberont sur les bureaux des maires, tout simplement parce que nous n'avons pas cet argent. Et il faut savoir que les collectivités ne sont pas des puits Depuis son fond, puisque nous ne vendons rien, nous ne produisons rien, nous offrons des services et nous vivons simplement de dotations de l'État et de quelques taxes, notamment la taxe foncière, puisqu'une quote-part est reversée aux collectivités, aux départements aussi, à la région, aux syndicats, etc. Donc nous n'avons pas de marge de manœuvre, si ce n'est que de pouvoir augmenter les taux de nos taxes foncières et de pénaliser un peu plus les propriétaires de nos collectivités, ce que nous ne souhaitons pas, surtout pour compenser des prix de revient qui ne nous incombent pas, hein, puisque si nous sommes dans cette situation, alors c'est lié à un contexte international, oui. J'en ai bien, nous en sommes bien conscients les uns les autres, notamment aussi au conflit russo-ukrainien, mais par ailleurs, nous sollicitons de la part du gouvernement qu'un bouclier énergétique soit mis en œuvre. Alors, vous me direz, alors pour être tout à fait précis avec vous sur ce point, et il y en a bien d'autres à exposer, mais il faudrait que je revienne vous voir, Jacqueline.
Vous reviendrez.
Il faut savoir que les toutes petites communes, celles qui ont moins de 2 millions de budget et moins de 10 agents dans leur collectivité, pourront bénéficier du tarif réglementé de 15%, comme les particuliers. Les autres communes vont pouvoir... quelque part, alors là c'est pas encore très précis parce que j'en discutais avec un sénateur vendredi dernier sur les avancées qui ont été proposées par Gabriel Attal notamment, certaines communes pourront bénéficier d'un filet de sécurité. Mais pour ce faire, il faudra qu'elle rentre dans un calcul démagogique assez impressionnant, à savoir ne pas dégager un excédent, donc un résultat supérieur de 22% de leur recette de fonctionnement en année N-1, et qu'en année N, vous voyez, si c'est très simple, il faudrait que ce résultat soit inférieur de encore de 25%. Donc en fonction des usines à gaz, et il faut savoir que si les collectivités sont appelées à dégager des résultats, des excédents chaque année, c'est pour leur permettre de dégager une capacité d'autofinancement. Alors, je suis un petit peu technique, mais c'est important. Qu'est-ce qu'une capacité d'autofinancement? Ben, cela permet de financer les annuités d'emprunt qu'elles ont en cours, et aussi de permettre de faciliter l'investissement pour leur commune. À ce propos, comme un particulier rembourse son emprunt sur sa maison, eh bien, il lui faut dégager un certain revenu et une certaine marge de manœuvre pour lui permettre effectivement de rembourser cet emprunt et ses mensualités. Donc c'est la même chose pour une collectivité. Par ailleurs, il faut aussi dire que comme nous ne serons plus en capacité de dégager des excédents suffisamment conséquents, puisque ils seront fortement dégradés en fin d'année et encore plus à fin 2023, nous ne serons plus en mesure, nous les collectivités, de porter l'investissement public, puisque nous le portons à hauteur de 70% au niveau national, c'est-à-dire l'investissement public, de donner aux entreprises du bâtiment notamment et des travaux publics un certain nombre de marchés pour leur permettre à elles également, à ces entreprises, de pouvoir travailler et également de pouvoir financer l'emploi au sein de leurs entreprises. Donc c'est tout un effet de chaîne. Vous parliez de crise sanitaire tout à l'heure. Effectivement, il y a la crise sanitaire, la crise économique, énergétique. Et sans être un grand devin, je pense que nous tendons vers une crise financière relativement conséquente dans les semaines et dans les mois à venir.
Compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui.
Donc il faut absolument que le gouvernement ait en tête effectivement que ce problème est existant, il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens,
oui,
ni plus ni moins. Mais remettons l'église au centre du village et croyez-moi, ça fera beaucoup de bien à bon nombre de personnes. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Alors bien sûr, il y a bien d'autres motifs qui nous ont conduits avec l'AMIF et l'AMF à faire des propositions d'amendements sur cette loi de finances. Je ne suis pas là aujourd'hui pour en parler, mais il y a aussi en ce qui concerne l'inflation, puisque l'inflation n'est pas du ressort des collectivités, mais nous la subissons de plein fouet. Et l'État, le gouvernement, ne souhaite pas revaloriser l'ensemble de nos dotations, et sur notamment la DGF, qui est un produit important pour les communes qui la perçoivent encore, de la revaloriser au taux de l'inflation. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous. Et par ailleurs, nous avons quand même réussi à faire passer que les bases fiscales soient réévaluées évoluer d'au moins du taux de l'inflation entre 6,8 et 7 points d'ici la fin de l'année, pour nous permettre effectivement d'avoir un produit attendu sur notre le produit que nous percevons au sein de la taxe foncière dans nos budgets, qu'elle soit revalorisée. Mais nous n'étions pas d'accord là encore pour être solidaires avec l'État, parce que l'État voulait qu'on partage cette augmentation, 3,5 chacun, grosso merdo, je vais dire. Mais c'est pas de notre sort. Si on décide, nous les communes, d'augmenter les taux, c'est tout simplement pour financer des équipements, pour venir
améliorer la vie de vos...
et bien vivre ensemble au sein de nos collectivités, mais pas pour être pour participer au déficit public de l'État. Je rappellerai que les communes votent des budgets à l'équilibre, elles. Et bien heureux.
Et donc, juste un mot encore, Daniel, vous attendez beaucoup de ce congrès des maires pour peser dans la balance ?
Oui, parce que comme je vous le disais, les maires sont vent debout, les maires sont très inquiets et bien sûr, ils sont même anxieux pour l'avenir de leurs finances locales. Et il est important effectivement que nous soyons tous solidaires et unis lors de ce congrès. Et David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, en est bien conscient. Et je pense que si le gouvernement ne revient pas vers nous avec des actions positives, nous engagerons des actions envers l'État. Et je pense que ce sera quand même un vrai problème, parce que je rappellerai que le maintien du service public est l'amortisseur social dans une société explosive. Ouais. Alors, l'avenir de nos territoires est en jeu, la survie de nos communes également. Ça, c'est vraiment un autre leitmotiv aujourd'hui, de pouvoir se sortir de ce marasme. Et ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que il ne faudrait pas que la révolution soit en marche. En marche. Voilà.
Merci Daniel le Fargeau. Vous nous tiendrez au courant. Merci pour toutes ces précisions. Vous nous tiendrez au courant du résultat du congrès des maires et puis de l'évolution. Vous revenez quand vous voulez, Daniel.
Merci Jacqueline.
Merci à vous. Francky, je propose juste une courte pause là, une vraie courte pause pour ensuite donner la parole à Paul Dubray. Merci.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Paul Dubray, donc c'est au conseiller départemental et au représentant de la FDSEA que je m'adresse, puisque nous allons parler à présent toujours avec à l'esprit la lutte contre les dépôts sauvages. Nous allons parler d'une expérimentation inédite pour la détection précoce de ces dépôts sauvages via l'analyse d'images satellites. Donc je vous laisse nous en parler, Paul.
Oui, exactement, Jacqueline. Tout d'abord, je voudrais encore remercier une dernière fois la FFB du Val-d'Oise, je précise du Val-d'Oise, qui a eu l'initiative de tous nous mettre dans la boucle, et je trouve que c'est très important. On le remarque tous en tant qu'élus, ensemble on va plus loin et plus vite. Donc j'espère que grâce à ça, on va pouvoir rendre nos campagnes un peu plus propres et plus agréables à vivre comme on les avait avant. Je voudrais redonner trois chiffres que vous avez donnés tout à l'heure pour montrer un peu l'importance de ces chiffres et que vos auditeurs s'en souviennent, parce que c'est quand même des chiffres assez lourds de conséquences. Nous sommes sur 250 points de dépôts illégaux dans le Val d'Oise. On est sur un budget d'1,3 million d'euros de coûts au département de nettoyage des bordures départementales. C'est juste les bordures départementales, et sur un coût de gestion des déchets en Île-de-France de 14 millions d'euros. Pour moi, c'est trois chiffres qui me paraissent quand même assez importants.
Oui, c'est très significatif, et oui, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ces 14 millions, on pourrait faire beaucoup d'autres choses.
Exactement, et on aimerait s'en servir pour autre chose.
Oui, financer les communes.
Voilà, c'est ça. Je l'ai pensé très fort, Daniel.
Donc je vais essayer de vous parler quand même un petit peu aussi. En gros ce que le conseil départemental sous l'égide de Marie-Christine Cavecchi a mis en place pour les dépôts sauvages et pour essayer de les éradiquer, c'est notre souhait à tous. Je vais vous parler d'abord de Val-d'Oise Numérique. Val-d'Oise Numérique, c'est quand même un budget de 100 000 euros par an au département. Donc c'est une initiative où toutes les deux semaines, on va recevoir des images d'Airbus qui seront précises à peu près à 50 cm. Des nouveaux dépôts sauvages ou des dépôts sauvages existants qui sont agrandis. Et en fait, sur ces photos, on va pouvoir voir ce qu'il y a dans ces dépôts sauvages, si c'est des gravats, si c'est des pneus. On va pouvoir voir la quantité et voir à peu près où se trouvent ces dépôts par rapport aux déchetteries publiques. Le but, c'est de voir l'accumulation. N'oublions pas que cette mise en place, c'est une première en France. Nous sommes le seul département à le faire en France.
Encore une innovation du Val-d'Oise.
On est pro-Val-d'Oise on y va jusqu'au bout.
À la pointe, Val-d'Oise, toujours.
Et en fait, cette solution permettra également au département et à son futur centre départemental de supervision qui est prévu une ouverture d'été 2023 de mobiliser des caméras mobiles sur les sites repérés.
Voilà.
Donc, grâce à ces caméras mobiles, ceux qui reviendront mettre sur le tas existant, on arrivera et on pourra passer le relais après à la gendarmerie derrière.
Oui, ce qui permet, comme nous l'avons vu au début de l'émission, de prendre les entrepreneurs, enfin les gens qui font leur dépôt sur le vif.
C'est ça. Et puis on sait tous que quand on attaque le portefeuille, bizarrement, on trouve des solutions plus rapidement.
Ça va mieux.
Après, pour soutenir mes chers amis maires aussi, on a changé, ce qui s'appelait l'aide aux communes avant est passé sur Val-d'Oise Territoire. On a alloué à peu près depuis 2 ans 200 000 euros de subventions aux communes pour la gestion des dépôts sauvages. C'est une subvention de 25%, mais qui ne concerne pas que les dépôts sauvages. Ça peut être la mise en place de barrières, la mise en place de caméras pour justement protéger nos zones dans nos communes un peu plus récurrentes que d'autres. Et de pouvoir que c'est ceux qui déposent les dépôts sauvages se lassent et ne viennent plus chez nous.
Oui.
Malheureusement,
ils iront sur d'autres territoires.
Le but, c'est pas de repousser le problème, mais on sait comment ça marche, c'est que c'est le jeu du chat et de la souris. Hein. Donc voilà, c'est vraiment cette solution pour les communes. On en a profité nous sur Boissy il y a pas si longtemps que ça sur ma commune où on avait des dépôts sauvages et ce petit coup de pouce de 25% aide les communes à nettoyer. On serait peut-être pas forcément capable de le faire si on n'avait pas cette subvention-là.
Oui. Si tu me permets, je veux dire remercier le département, le conseil départemental et sa présidente Marie-Christine Cavecchi et toi, Paul, bien évidemment, qui la représente aujourd'hui. Effectivement, le conseil départemental est un acteur et un partenaire financier très important pour les communes et le nouveau guide des aides que vous appelez
Val-d'Oise Territoire
est un ensemble de données et d'aides et de subventions pour les différents équipements et pour différents dispositifs mis en place au profit des communes. Et franchement, on tient vraiment à remercier le partenaire, le conseil départemental, au nom de l'Union des maires pour nous faciliter et participer au financement de nos actions.
Très gentil. Merci, Paul, pour tout le monde.
Paul Dubray, ce que je voudrais dire, c'est que l'importance de ces images satellites, c'est que les dépôts, puisqu'il y a un peu un jeu de cache-cache, hein, de chat et de la souris, ces dépôts sauvages sont mis dans des endroits peu fréquentés, avec des accès peu visibles, et où il y a des contraintes, des obstacles. Et avec ces images satellites, on peut repérer ces endroits.
Voilà, on peut repérer plus facilement des endroits où on ne va pas souvent, inaccessibles, en milieu de bois. C'est très très précis. Quand je vous dis à 50 cm près, c'est quand même assez impressionnant. Le but, c'est vraiment de pas laisser un endroit se dégrader sans que personne le voit.
C'est ça.
Donc, ce qui peut arriver, c'est sur certains chantiers ou dans des fonds, dans des trous, on se retrouve avec d'innombrables dépôts et on a eu le cas sur Boissy où la facture s'est élevée à 2 200 000 euros. Hein. Mm-hmm. Donc, pour nettoyer ça après derrière, donc le but, c'est vraiment de repérer ces dépôts le plus rapidement possible, parce qu'un endroit qui est propre, on a logiquement quelqu'un de normal n'a pas envie de le salir.
Oui, bien sûr. Bien
et ça
sûr.
Permet de mieux traquer les acteurs aussi.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est très important. Alors après, encore faut-il les attraper et les punir.
Oui.
On revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Tout à l'heure. Ouais. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément solvables. William Vinant.
On va parler avec Paul aussi. C'est vrai qu'en traquant tous les 15 jours de nouveaux dépôts, même petits, on sait que par habitude, des personnes vont y revenir. Et souvent, c'est tout à l'heure ce que tu disais, Jacqueline, là, l'entreprise qui a fait 16 rotations faire des dépôts. Dès lors, on en voit un. On peut mettre en place un système de caméra mobile installé.
De chasse.
Par exemple. Qui est utilisé à la chasse ou dans d'autres domaines ou même par les services de police aussi parfois. Et effectivement, sans que personne ne voit rien, cette caméra, on va envoyer de manière régulière cette fois-ci les plaques d'immatriculation, le type de véhicule. Et on traque très rapidement la personne qui fait ça. Et ça peut même envoyer en temps réel, si la caméra est connectée avec une clé 3G, à une personne qui reçoit la photo sur son téléphone, qui pourrait être les forces de police, par exemple.
C'est-à-dire,
voilà. Donc l'idée, c'est
l'outil réagir très vite.
L'outil satellite envoie une info toutes les... tiens, il y a un nouveau là-bas. Bon, on va mettre une caméra, voir ce qui se passe dans les deux semaines. Et hop, tout de suite, on prend la personne. C'est ça l'intérêt de cette, aussi, cette démarche. Et moi, je la trouve géniale.
Et nous sommes confiants, et le but, c'est que ça marche. Et c'est vrai que ce système de caméra va beaucoup nous aider. Après, ce qu'on disait tous, je pense qu'on est tous dans la même ligne, c'est que tant qu'il y aura pas de punition vraiment radicale, on aura du mal à s'en sortir. Parce que quand on voit des amendes à 135 euros pour un dépôt sauvage, c'est ce qu'ils gagnent en le mettant en bidon.
Donc,
il faut aller à la base du problème et taper dans le portefeuille. Parce que si les entreprises le font, c'est que c'est lucratif.
Oui. Paul, leur tourne.
Daniel a été très bavard. Bon, il m'a laissé un peu de temps. Je vais vous parler aussi de la FDSEA.
Voilà,
mais vraiment, côté succinct, parce que je trouvais ça très bien.
Qu'il soit co-signataire
de la charte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la FDSEA, c'est la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole. Et en fait, les agriculteurs sont des gens de terrain, sont souvent sur le terrain et vont pouvoir relier les informations aussi rapidement. On aura tous les 15 jours Valvas numérique qui va nous répertorier, mais l'avantage, c'est qu'un agriculteur va pouvoir aussi nous le dire plus rapidement, en allant sur son champ et pour tous ces coins un peu isolés, et ça permet vraiment qu'on aille tous dans le même sens, puisque les agriculteurs se sentent pas non plus abandonnés en retrouvant leur champ sale, leur chemin sale. J'en ai qui m'appellent en me disant on peut pas aller en plaine ce matin, faut qu'on aille déblayer un tac, et sur le chemin on n'a plus accès à nos parcelles, et ça les fatigue. Sachant qu'en plus, s'ils bougent le tas, ils peuvent être accusés de mettre des dépôts sauvages. Donc c'est très compliqué à gérer. Et puis on veut le bien vivre ensemble, on veut des campagnes propres. C'est tellement agréable de se promener le week-end dans notre beau Vexin, où je vous incite tous à venir.
Parce que la France est belle.
Exactement. Absolument. Et c'est quand même plus agréable de se balader sur un chemin avec des champs autour plutôt qu'avec des pneus usagés autour.
Est-ce que les agriculteurs sont, peuvent être taxés aussi de faire des dépôts sauvages?
Failli arriver une fois, et c'était juste vengeance.
Oui.
Les agriculteurs, ils ont tout à gagner à garder. Leur outil de travail propre.
Ils sont des amoureux de la nature.
Voilà. Ils sont respectueux de l'environnement.
Et puis c'est quand même leur outil de travail qui se repasse de génération en génération. Donc le but, c'est de ne pas l'abîmer.
C'est ça. D'où le fait qu'ils aient co-signé cette charte, c'est vraiment une belle marque de confiance.
Oui, comme je vous dis, c'était vraiment très important aussi pour eux d'être dans la boucle et de se sentir concernés sur cette charte.
Merci beaucoup, Paul Dubray. Il me semble qu'on pourrait refaire une émission sur cette charte parce qu'il y a tellement de choses à dire. Sébastien Tavaux, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être?
Oui, il y a énormément de choses à dire. Je voudrais répondre à Daniel avec le problème de financement des communes que je peux comprendre parfaitement. Je pense que ça doit être très dur pour certaines avec l'augmentation du coût de l'énergie. Mais néanmoins, je vais prêcher pour ma paroisse. Faut pas couper trop facilement les vivres sur les budgets d'investissement, travaux ou amélioration des bâtiments, puisque l'énergie passe forcément par l'amélioration énergétique des bâtiments. Donc plus on rénove, plus on améliore, moins on consomme, donc moins on paye. Donc je pense que c'est un système gagnant-gagnant. Donc surtout, garder un peu de budget pour nos entreprises.
Alors pour répondre précisément à ta question, bien évidemment, nous ne souhaitons pas couper les vivres aux entreprises, d'autant plus que chaque maire, lors de sa campagne municipale, avait proposé un certain nombre de projets d'investissement dans le cadre d'un PPI, projet pluriannuel d'investissement. Seulement, si nous ne sommes pas en capacité de dégager, compte tenu de ces lourdes charges de fonctionnement supplémentaires.
C'est une équation.
C'est-à-dire que nous ne pourrons pas aller chercher même des financements auprès des institutions bancaires. Et pourquoi cela? Parce que les institutions bancaires ou les prêteurs verront bien que nous ne serons pas en capacité de rembourser nos annuités liées à ces sollicitations d'investissement. Donc, on se porte la queue, hein, ni plus ni moins. Donc c'est pourquoi il faut absolument que le gouvernement prenne conscience de ces réalités. Et autant le gouvernement a fait le boulot pendant la période sanitaire d'aider au maximum le secteur économique et les entreprises, et heureusement, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il ait conscience de pouvoir aider les collectivités, sinon nous aurons de grandes difficultés.
Le pays va être en faillite. Je ne plaisante pas.
Et certaines collectivités aujourd'hui et au sein du Val d'Oise sont en grande difficulté financière d'ores et déjà. Donc le but de la manœuvre, c'est effectivement de faire vivre l'économie. Nous sommes un acteur essentiel pour vous, les entreprises, et nous le savons toutes et tous. Néanmoins, voilà, nous ferons en fonction de nos capacités, de nos possibilités. C'est pourquoi vous, les chefs d'entreprise, je vous encourage à être solidaires de vos maires et de vos collectivités pour monter au créneau si besoin était. Et ça, nous verrons cela après le congrès des maires. Donc je ne dis rien, mais je vous ai tout dit.
Merci Daniel Fargeau pour
nous,
cette
pour faire ce qu'il faut.
Cette sommation.
Je voulais aussi lancer un appel auprès de tous les conseillers régionaux qui nous écoutent.
Oui.
Puisque là, alors c'est très bien, on parle du Val d'Oise, c'est parfait, on est vraiment précurseur sur le système, c'est parfait. Mais il faudrait pas que notre engagement valdoisien, alors, qui fonctionne, oui, c'est très bien, il faut qu'il fonctionne, mais il faudrait pas qu'on délocalise à nos départements voisins.
Oui, c'est ça.
Ça va être aussi le risque, en fait, le revers de la médaille, oui. c'est la patate chaude, hein, oui. qu'on la balance dans les autres départements. Donc, je lance un appel auprès de tous les élus régionaux, conseillers régionaux qui nous écoutent, pour développer aussi la charte, parce qu'ils ont le droit aussi d'être initiateurs de la charte, hein, dans les autres départements. Ce serait bien qu'on ait un rêve, qu'on ait une charte Île-de-France.
Oui, oui.
Où vraiment tous les départements de l'Île-de-France, les 8, soient réunis autour de la table pour faire un engagement commun. Et ça, ce serait magnifique.
Bah écoutez, moi, vu de ma fenêtre, c'est vraiment le but qu'il faut atteindre. Hein,
je crois en plus qu'on a un conseiller régional à Enghien, je crois.
Ouais.
On en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs.
Effectivement,
je pense que voilà, ce serait.
Bon, William Vinant,
Juste une dernière chose. La charte donc qu'on a signée le 14 septembre, elle n'est pas figée.
D'accord. Elle peut évoluer.
Elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle peut évoluer. Chaque acteur économique ou chaque acteur local qui a envie de s'engager avec nous. Il n'y a aucun souci, la charte est prévue pour qu'ils puissent intégrer donc le comité de pilotage pour vraiment faire avancer le système au mieux.
Et pour que chacun y apporte sa propre expérience.
C'est ça.
Absolument.
On parlait des champs, des forêts, typiquement la Fédération de la randonnée, Fédération de la chasse. Ça c'est des acteurs terrain présents en permanence. Donc pourquoi pas ? Allons-y.
Écoutez, je crois que le message est bien reçu. Moi, si vous souhaitez revenir en parler, parce que je me rends compte qu'on n'a peut-être pas tout dit, c'est avec grand plaisir. On reprendra une date à la fin de l'émission, mais là, l'heure tourne. William, je voulais juste vous remercier d'avoir pu me permettre de faire cette émission. Je crois que vous-même, vous avez su fédérer tous les chefs d'entreprise pour qu'ils...
C'est notre rôle. Notre fédération, de fait, nos jeunes russes sont impliqués dedans parce que notre fédération signe, mais c'est le sens de démarche de notre fédération sur ce sujet-là, mais sur l'emploi, sur plein d'autres opportunités, les marchés de travaux du conseil départemental, les marchés de travaux des collectivités locales, c'est notre job, donc c'est important de les associer. Moi je pense que véritablement c'est l'essence même d'une fédération départementale, d'être proche du terrain, de ses entreprises et de ses réseaux locaux, institutionnels et politiques, et voilà, c'est dans mon sens.
Merci à vous pour ce projet collectif, hein, et on vous souhaite bien sûr qu'il fonctionne à fond. Merci à chacun pour votre présence dans nos studios. On vous souhaite le meilleur pour la poursuite de votre mission, et puis on va vous suivre de près. On va suivre de près cette charte. Merci à vous.
Merci Jacqueline.
Et au plaisir.
Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son intégralité sera disponible sur le podcast mis en ligne sur le portail de la radio. Vendredi prochain, je recevrai le président de la CPME, Laurent Pillard, et deux entrepreneurs adhérents de cette confédération. À vendredi, d'ici là, bonne semaine, prenez grand soin de vous et de vos proches.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.